Voilà, bien, on va parler des élections régionales qui se dérouleront en fin d'année, le 6 décembre et le 13 décembre, deux dimanches, donc, où il faudra voter pour les régionales. Et aujourd'hui, pour parler de ces régionales et pour parler d'un parti qui est avec nous, il y aura Evelyne Valentin qui est présente avec nous. Et Yves Prat, alors Evelyne Valentin, elle est conseillère régionale Auvergne Front de Gauche cadre EDF, ancienne présidente nationale du comité d'entreprise EDF, GDF et la Polignac. Et Yves Prat est conseiller municipal à Brive-Charensac, militant Front de Gauche, consultant formateur à Brive-Charensac. Alors, on va donner les gens qui sont dans la liste. Laurent Doussin, Didier Audouard, Didier Bourdelin, Eliane Méret, Michel Chaumet et Anne-Sophie Plutôt Bernalin. Eh bien, tout d'abord, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, je crois que la première chose qu'il faut faire, avant de parler de quoi que ce soit, c'est d'expliquer un peu ces élections, parce que ça paraît quand même très compliqué. Donc, vous m'avez amené une belle liste, là, donc qui s'appelle « L'humain d'abord avec la gauche républicaine et sociale ». Cette liste est conduite, alors, au niveau de la région, par Cécile Kukierman. Et vous m'expliquez, en fait, qu'il y a tous les départements de la région sur la liste. Donc, quand les gens vont voter, ils vont plier ça, ils vont le mettre dans l'enveloppe, et on va voter pour tout le monde à la fois.
C'est cela, c'est une liste régionale et qui comporte 13 sections départementales.
D'accord. Alors nous, bien sûr, on va s'intéresser plus à la Haute-Loire, hein, puisque vous êtes représentant de la Haute-Loire. Yves, vous êtes tête de liste. Voilà. Merci. Alors tout d'abord, la liste l'humain d'abord. Bon, c'est vrai que je dirais que l'intitulé est pas mal, parce que j'ai l'impression, moi, qu'on a oublié un petit peu l'humain depuis quelque temps. Non.
En effet, vous savez que c'est un petit peu le cheval de bataille de notre mouvement qui s'appelle le Front de Gauche, qui a été créé à l'initiative avec plusieurs partis, la gauche unitaire, le PCF et le PG, qui ont été rejoints par d'autres partis et de nombreux citoyens engagés d'ailleurs dans cette démarche-là. Ce mouvement, disons, a pu présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2012, qui était Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, la volonté était bien de placer l'humain au centre de nos préoccupations, en mettant en avant un meilleur partage des richesses, la recherche de la paix, la conformité à ce qu'est notre République, liberté, égalité, fraternité, donc des valeurs qui nous sont chères.
Isabelle, vous avez le même avis ? Evelyne. Je vais y arriver, moi, excusez-moi, c'est compliqué. Evelyne.
Bien sûr que j'ai le même avis, mais vous savez, dans le prélude du programme qu'on a porté, ce qui s'appelle l'humain d'abord, la vraie richesse d'un pays, elle réside dans le travail humain, dans la capacité des hommes et des femmes à s'associer donc librement, à créer, à inventer, à produire. Et si on ne met pas l'humain d'abord au cœur de toutes les préoccupations, effectivement, on ne parle que de production, on ne parle que de productivité, on ne parle que de fric, et on oublie carrément l'humain dans sa globalité.
Alors, on voit quand même que c'est très compliqué, parce que globalement, on peut dire, vous parlez de l'argent qui est le nerf de la guerre, hein, d'abord. Et on ramène tout un peu à l'économique, c'est vrai, on le voit partout, hein, on le voit dans le sport, on le voit dans les affaires, mais on a l'impression quand même, c'est pas une impression, même, l'argent mène tout, alors c'est pas trop compliqué de se battre contre ce système.
C'est pas compliqué, si, bien sûr, mais c'est une bataille, c'est un engagement de tous les jours. On a l'impression, effectivement, que l'argent est une fin et non un moyen. Et je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit. L'argent est un moyen pour le bien vivre ensemble et pour que chacun trouve sa place dans notre société.
Donc, Evelyne, vous, je pense que vous avez la même Enfin, peut-être que vous avez une idée différente ou complémentaire.
Non, oui, complémentaire, et je partage tout à fait ce que dit Yves, c'est que la domination du capital financier sur le travail, sur l'humain, l'empêche d'ailleurs de réfléchir, l'empêche de vivre dignement de son travail, l'empêche de se soigner pour certains, l'empêche de pouvoir circuler librement, et l'empêche aussi de pouvoir s'éduquer, de pouvoir se cultiver. Donc c'est pas un simple slogan, l'humain d'abord, c'est vraiment une priorité absolue pour une redistribution des richesses et bien sûr pour refonder un pays avec des valeurs de solidarité.
Alors c'est vrai que on a quand même, il faut le dire, hein, qu'on a deux grands partis qui vont s'affronter, hein, c'est le parti socialiste et le parti des Républicains, on va dire, enfin, avec tous leurs, je dis à ceux qui viennent se greffer. Donc vous, on peut pas dire, je veux pas dire, c'est pas une péjoratif, hein, même parti un peu moins important, quand il faut lutter contre ces grandes machines de guerre, je vais dire, c'est dur, non ?
En effet, bon, ils ont des moyens dont nous ne disposons pas, mais je crois que nous, ce qui fait quand même notre force, c'est notre engagement, c'est notre militantisme, justement, pour mettre en avant plus d'égalité, plus de répartition des richesses, et pour nous orienter vers un monde beaucoup plus socialiste, beaucoup plus fondé sur des valeurs que sont l'égalité, la solidarité et la citoyenneté.
Eh bien, pour compléter effectivement ce que dit Yves, effectivement, le Front de Gauche, c'est pas un parti, hein, c'est une association.
D'accord.
Voilà,
il faut
le préciser. Où il y a le Parti communiste, il y a le PG, le Parti de Gauche, il y a Ensemble, il y a. République et socialisme, voilà. Oui, oui, s'il y en a d'autres, parce que le Parti de Gauche, le Front de Gauche, oui. En fait, est en mouvement et s'agrandit sans arrêt avec donc l'agrégation d'autres formations politiques. Voilà.
D'accord.
Donc, et pour ce qui me concerne, moi, j'appartiens au Parti communiste depuis une trentaine d'années.
Oui, voilà. Non, mais...
Parce que le Front de Gauche a été fondé par le Parti communiste et par le Parti de Gauche. Voilà. Alors, ce que je voulais indiquer aussi, c'est que par rapport aux réformes, et ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, on nous a présenté la fusion de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire des économies. Bon, elle s'inscrit dans une réforme des collectivités, Yves le développera un peu mieux que moi sur la loi NOTRe, qui donc fusionne ces deux régions et crée aussi des métropoles. Hein. Et donc, ce que nous disons, nous sommes d'abord notés contre cette fusion, parce que ça va éloigner encore plus le citoyen des décisions. La région Auvergne est à dimension, je dirais, humaine. Mais lorsqu'on fusionne les deux, Auvergne et Rhône-Alpes, ça en fait un monstre énorme. Et donc la capitale régionale, puisque Clermont-Père, on n'est plus capitale régionale, ça sera donc Lyon qui devient capitale régionale. Donc pour tous ceux du Briffadois, pour tous ceux qui sont, je pense aussi, aux habitants du Cantal, eh ben, ça éloigne encore plus les gens des décisions. Qui plus est, ça ne va pas engendrer des économies, mais au contraire, ça va générer, parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle organisation, ça crée aussi des besoins, et donc ça va coûter encore plus cher.
Alors vous avez devancé ma question, parce que je voulais vous poser la question, que pensez-vous de ces grandes régions ? Ben vous venez d'y répondre, vous. Yves a le même avis ?
Oui, bien sûr, pour compléter, donc Evelyne a bien précisé que cette réforme territoriale, nous ne l'avions pas souhaitée, elle a été faite très rapidement, sans consultation aucune d'ailleurs, ce qui nous pose un problème aussi sur le plan démocratique. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mise en place de ces grandes régions va mettre à mal aussi notre vision de l'État-nation, dans la mesure où, effectivement, on voit disparaître peu à peu les services publics nationaux et qui risquent de devenir peut-être des services publics régionaux. Ça veut dire que la notion d'égalité dont je parlais tout à l'heure entre tous les citoyens français sera elle-même mise à mal. Donc ça correspond effectivement à une politique libérale qui est voulue de métropolisation de la France avec la concentration des richesses et des moyens sur des grandes métropoles métropole et pour nous ce sera sur Lyon, et ces richesses théoriquement devraient ruisseler jusque dans nos campagnes. Imaginez ce que cela peut être en période de sécheresse. D'accord ? Donc là aussi, on perd cette notion d'égalité. Et je crois que ça correspond aussi à l'objectif libéral qui est conduit par l'Europe, qui veut finalement une société libérale et qui s'oriente plus vers l'Europe des régions plutôt que l'Europe des pays-nations et l'Europe des peuples.
Alors c'est vrai qu'on se plaint déjà, nous qui sommes des citoyens ruraux, on se plaint du parisianisme, on va peut-être faire que le renforcer un peu plus, non ?
On le renforce beaucoup plus, effectivement, cette concentration va être terrible, et on se demande un petit peu si le citoyen lambda aura droit à la parole dans les années à venir. Surtout lorsqu'on parle aussi de regroupements de communes, de communautés de communes, à des échelles qui ne correspondent pas à notre territoire.
Oui, et en plus, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de dresser les populations d'Auvergne contre celles de Rhône-Alpes.
Évidemment. Non, on a compris.
Bien évidemment. Non, on n'est pas aussi, refermé sur notre pré carré et l'Auvergne avec l'Auvergne. Bien que j'adore l'Auvergne, et je suis très fier d'avoir représenté pendant 6 ans les Auvergnats à la région, et en particulier ceux de la Haute-Loire. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que cette fusion, non seulement elle éloigne, mais en plus des centres de décision, elle est aussi antidémocratique parce qu'elle n'était pas prévue. Elle nous est tombée dessus comme ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ça va créer des inégalités territoriales. Parce que, un, de par notre culture, de par nos territoires, hein, qui sont ruraux, où on a de l'élevage, il y en a moins en Rhône-Alpes. On a aussi, par les paysages qui sont montagneux, semi-montagneux, alors qu'en Rhône-Alpes, il y a de la montagne, mais que sur un côté. Donc il va falloir effectivement porter une complémentarité des deux territoires. Voilà. Et c'est pour cela que Yves développera en termes de propositions. Effectivement, il faut avoir une attention particulière sur la ruralité.
Alors j'avais mis une question, alors bon, qui seront bien dans les compétences quand même de la région. Je vous demandais si les réformes sont difficiles à faire en France, parce qu'on se rend compte que dès qu'on veut toucher à quelque chose, il y a des levées de boucliers de partout. Alors, vous le ressentez, vous, ça aussi, un petit peu, que c'est compliqué quand même ?
Est-ce qu'on le ressent directement ? Disons que nous, on se positionne plus sur l'animation du territoire et le bon fonctionnement d'une vie démocratique. Et effectivement, lorsqu'on nous parle de réforme, ben, ça renvoie à la région, ça renvoie à l'État. Et ce que l'on peut réclamer, c'est de participer à ces réflexions, chose qui n'a pas été faite dans le cadre de la réforme territoriale. Donc les réformes sont possibles, oui, dans la mesure où, effectivement, il peut y avoir une réelle participation de l'ensemble des forces, des représentants du territoire.
D'accord. Alors, c'est toujours, ça concernera les régions, puis ça concerne l'État, mais les régions, puisqu'en fait, les régions vont après transmettre à l'État. Moi, j'avais mis aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses quand on se balade, hein, on entend les gens qui parlent, on parle des privilèges. Alors, s'attaquer aux privilèges, on a l'impression que c'est complètement impossible. Et quand on parle d'égalité, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'inégalités, moi, ce que je pense. Votre avis là-dessus ?
Oui, on constate quand même qu'il y a des...
Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Hein. 36, c'est loin quand même. Je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Il y avait besoin de tout, là. Mmh. Maintenant, il y a peut-être un peu moins besoin de ce que certains réclament. Enfin, c'est mon avis, attention.
Hein. Oui. Il y a beaucoup d'inégalités. Effectivement, en premier lieu, dans la répartition des richesses, hein, vous savez qu'une de nos propositions phares en 2012, lors de l'élection présidentielle, c'était d'avoir un salaire minimum, mais un salaire maximum également. Aujourd'hui, il y a des rémunérations de dirigeants
Des disparités,
qui sont effroyables pour le commun des mortels. Et deuxième inégalité que l'on ressent aussi particulièrement, c'est cette inégalité dans la représentation et dans nos différentes collectivités, effectivement, qui peut être liée à regarder une personne comme Laurent Wauquiez, qui se retrouve député, qui se retrouve maire, qui se retrouve président, vice-président de la communauté d'agglomération, président d'un syndicat des maires, enfin voilà. Et quelle place laisse-t-il finalement à d'autres élus même de son parti, quoi. C'est là aussi où il y a un certain nombre d'inégalités qui fait que nos institutions, telles que la Ve République, arrivent finalement au bout du chemin, et il est important pour rétablir, retrouver un petit peu d'égalité, ben, de se replonger sur une réflexion pour amener la Sixième République.
Evelyne ?
Ben, moi, je dirais que 36, quand même, a eu du bon. Hein.
Non, mais attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous avez peut-être mal compris ce que j'ai voulu dire.
Non, mais je...
Moi, je peux vous dire, j'ai un grand-père qui a fait la grève 6 mois en 36, sans toucher un centime. Alors,
tout à fait.
Je peux vous dire, il me l'a assez expliqué. Hein. Non, mais ce que je veux dire, en 36, il y avait tout à faire.
Ah, ben oui, voilà. Je voulais revenir là-dessus, voilà. Parce que moi aussi, que je suis agent EDF, j'ai fait pas mal de grèves pour garder un service public, ouais. Et je pense en particulier à des districts. Il y en avait un ici à Craponne, ouais. Qui a complètement disparu. Ça, on a lutté pendant des années pour qu'il y ait un service public. Alors je dis 36, c'est pas pour polémiquer avec vous, quoique j'aimerais bien.
Mais en plus, c'est
intéressant, c'est parce que ça a permis de créer des services publics, voilà, qui rendent encore à la population une certaine égalité pour pouvoir avoir comment dire ce qui est nécessaire pour vivre, que ce soit la santé, hein, que ce soit parce que je connais bien la nationalisation d'EDF et de GDF, enfin de l'électricité, de l'éducation, des grands domaines qui ont permis de développer aussi le pays. Voilà, effectivement, en 36, il y a eu la guerre, il y a eu pas mal de choses, et que c'est plus tout à fait ce qu'on vit. Mais quand même, s'il n'y a plus de services publics, même à Craponne, eh ben c'est la fin de Craponne.
Non, mais alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis je crois que tout le monde est d'accord. Là, il n'y a pas, que ce soit gauche, droite, centre.
Attendez, les réformes.
Oui, mais moi, je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut essayer de garder. Un minimum de services publics.
Un maximum de services publics.
Oui, enfin, un minimum, je m'entends. Non, mais il y a peut-être des endroits où c'est compliqué quand même.
On est d'accord.
Des très petites communes.
On est d'accord.
Mais au moins que, on va dire, aller dans un rayon de 20 km, enfin, je sais pas, je dis, qu'on ait au moins un service public. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est pas toujours ce qui se passe, hein, et même, on voit bien, qui se bagarre parce qu'on ferme la poste, parce qu'on ferme ci,
L'hôpital, parce que pour faire du fric, et ben, on ferme les hôpitaux.
Ouais.
Ici, il y a une bagarre, il me semble, pour conserver quand même un minimum de santé, on va dire, pour ses habitants.
Alors là, on en parle beaucoup aussi, ce sera ma quatrième question. C'est vrai que la population vieillit, bien, ce qui est quand même une bonne chose, mais bien sûr, ça impacte les retraites. Hein, et alors, c'est pour ça que je voulais vous demander aussi, on en parle, ça aussi, on en parle depuis très longtemps, l'uniformisation des retraites, est-ce que c'est un tabou pour vous, ou est-ce que vous pensez qu'un jour, ça sera possible? Parce qu'il y a une grosse différence, là, hein, si on parle de là, alors là, il y a des extrêmes. Hein. Yves.
Oui, alors pour ce qui est de la question des retraites, il est évident que dans une société comme la nôtre, il faut que les personnes vivent bien. Les retraites, c'est aussi un point important parce que c'est terminer notre vie dans de bonnes conditions. Et ça aussi, c'est un sentiment humain que l'on peut avoir vis-à-vis de chacun de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ensuite, on parle effectivement d'uniformisation des retraites. Je crois que s'il y a uniformisation à faire, c'est par le haut qu'il faut le faire. C'est pas par le bas. Et il ne s'agit pas de laisser la porte ouverte à des fonds de pension qui font du fric sur le fric, et qui en oublie complètement l'être humain.
Oui, alors...